Loué soit le Seigneur, remercié soit-il. Je crois que chacun qui vraiment a expérimenté le Seigneur et dont le Seigneur a possédé la vie, possède la vie, il ne peut plus vivre sans le Seigneur. Il ne peut plus être sans lui. Et il veut sans lui être rien du tout. Il ne peut pas exister sans le Seigneur. Auparavant, avant cela, un homme ne peut pas savoir ce que c'est que vivre avec Dieu. Seulement quand on a fait une expérience personnelle avec Dieu, c'est à ce moment-là, quand Dieu nous a rencontrés réellement, quand nous l'avons rencontré, c'est seulement quand il nous a appelés et que nous avons eu une rencontre personnelle avec lui, alors nous pouvons savoir ce que c'est que vivre avec Dieu. Nous le voyons dans les Saintes Écritures, particulièrement avec Paul qui était un Saul. Et nous savons ce que étaient ses motifs, ses intentions. Nous savons qu'il avait du zèle. Vous savez, on peut avoir aussi un faux zèle dans l'ignorance. Mais après que le Seigneur l'ait rencontré, regardez cet homme. Il a été totalement transformé. Totalement. Il n'était plus un adversaire, mais il était pour le Seigneur. Plus adversaire de le Seigneur. Plus rien pouvait le faire douter. Il était à 100% convaincu. Il savait qui avait parlé avec lui. Bien mes frères et sœurs, ou bien alors bien mes amis aussi, qui que vous soyez, si Dieu a parlé avec nous, alors nous savons qui a parlé avec nous. Et alors, personne n'existerait dans ce monde qui pourrait nous faire douter à cela. Mais Dieu est avec les siens. Il va avec les siens. Il est avec eux et il marche avec lui. Nous voyons Paul. Plus rien pouvait l'empêcher d'aimer Dieu. Quoi qu'on voulait qu'on l'avait frappé et presque lapidé à mort et persécuté et toutes sortes de choses qui étaient venues sur lui. Nous nous demandons parfois, est-ce que quelque chose pouvait l'éloigner de l'amour de Dieu? Non. Il était prêt à perdre sa vie pour le Seigneur. Je crois, mes bien-aimés, que chaque enfant de Dieu sera comme ça. Si vraiment le Seigneur habite dans notre cœur, a pris sa demeure dans notre cœur, alors du début jusqu'à la fin, ce sera pour nous un délice de vivre pour lui. Et on ne pourra plus regarder aux circonstances difficiles, quoi que ce soit. Nous marcherons avec le Seigneur dans le chemin étroit et nous sommes reconnaissants de ce que nous avons la grâce de marcher avec lui. Paul dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3, dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Cette assurance, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Ça, Paul pouvait le dire avec une pleine certitude. Parce qu'il savait, de lui-même, il n'a rien pu faire. De lui-même, il a vu que ces chemins, que la vie n'avait aucun sens sans Dieu. Mais il a loué la grâce de Dieu. Il a loué celui qui l'a racheté, qui l'a rendu capable. Et il a compris que la vie sans son sauveur n'a aucun sens. Mais bien aimé, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un exemple très particulier ici avec Paul. Et je voudrais dire qu'il ne se présente pas ici lui-même seul, il ne parle pas de lui seul ici, mais aussi il inclut les autres. Il dit ici, lisons encore cela ici. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Mais bien-aimés, quand Dieu appelle des hommes, il les rend capables. Lui-même, il les rend capables. pas qu'ils deviennent eux-mêmes, pas qu'ils seraient capables. Et ce n'est pas de nous-mêmes non plus que nous sommes capables de quoi que ce soit dans le royaume de Dieu. Non. Mais nous pouvons, avec cet apôtre, avec Paul ici dire, avec les apôtres, avec Paul ici dire, mais comme il est écrit ici, ce n'est pas au verset 5 à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Il y en a qui pensent pouvoir concevoir quelque chose et être ils pensent être capables et ils veulent être capables. Mais peut-être que cette capacité vient de l'homme. Il dit ici, non, ce n'est pas à dire que cela vient de nous. Non. Nous, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est là la différence. Cette différence, ici, Paul la voit, la fait. Probablement qu'il y a eu des hommes qui se sont pensés capables dans ces jours, d'autres fois. Et je pense que nous ne voulons pas le prétendre de qui que ce soit. Mais quand nous regardons dans nos jours, nous voyons aussi des hommes, peut-être qu'ils se pensent être capables de faire ceci ou de faire cela. Mais pas nous. Nous, pas du tout. Notre capacité vient de Dieu. Et nous ne pouvons rien concevoir de nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et encore un verset plus loin, il dit, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, de la nouvelle alliance. » Il nous a aussi rendus capables. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Bien, frères et sœurs, je pensais à cela. Si lui, il nous rend capables, alors c'est mieux. Si lui ne nous rend pas capables, pardon, si notre capacité ne vient pas de lui, c'est mieux de ne rien faire dans le royaume de Dieu. Si Dieu ne te rend pas capable, c'est pas la peine d'aller. Moïse le savait. Moïse le savait. Et Josué aussi. Moïse le savait. Il dit, si tu ne vas pas devant nous, nous restons ici, nous ne faisons rien. Et Paul aussi pouvait le dire. C'est lui qui nous a rendus capables de lui-même. Paul n'aurait rien pu faire. Tout ce qu'il aurait essayé aurait échoué, mais il pouvait en toute chose rendre la gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu qu'il l'a rendu capable. Mais bien, frères et sœurs, ça c'est merveilleux. Nous aussi, nous ne pouvons que donner l'honneur à Dieu en toute chose et lui demander qu'il puisse nous rendre capables, si ce n'est pas encore comme ça. Mais nous pouvons dire, celui qui prend, celui qu'il choisit, il le rend capable. Il le rend capable, il le prépare pour ce qu'il veut qu'il fasse. Et je crois que aussi, c'est peut-être raison que nous avons des réunions pour qu'il puisse nous rendre capables pour capable d'être prêt pour son retour proche. Bien sûr. Croyez-vous cela? Il veut nous rendre capables. Il veut nous préparer. Comme autrefois, il a rendu son peuple capable de le servir et il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Et nous voulons encore ce matin lui apporter l'honneur. Avant que le frère Franck serve avec la parole, nous voulons ensemble adorer, levons-nous pour le faire. Seigneur Dieu fidèle, nous te remercions de la plénitude de notre cœur, de ce que ce matin nous sommes ici, nous pouvons nous tenir ici, et que nous pouvons louer ton nom et t'apporter l'honneur. Seigneur, où étions-nous? Nous étions éloignés de Dieu et de sa grâce. Où sommes-nous? Rachetés par le Seigneur, par toi, sur le chemin éternel. Nous t'adorons et te remercions de la plénitude de notre cœur. Bénis-nous ce matin. Tu nous as déjà bénis dans les heures passées et tu veux encore nous bénir dans les heures qui sont devant nous. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui sont venus, pour chaque frère, pour chaque sœur, pour chacun qui ne t'a pas encore expérimenté. Ô Seigneur, accorde ta grâce pour qu'il puisse t'expérimenter personnellement. Accorde-le pour que cela ait lieu aujourd'hui. Libère de tous, délivre de tous, de tout, et accorde ta grâce. Nous t'adorons et te demandons ta bénédiction. Encore maintenant, dans cette heure du matin, maintenant, bénis mon frère et sois la parole dans sa bouche et dans son cœur. Adoration te soit apportée à ton nom. Amen. Amen. Peut-être que nous chantons encore un chœur. Ensuite, le frère Franck viendra. Qui propose un chœur? Les portes en perles sont ouvertes. Pour moi, dans la gloire, les portes en perles sont ouvertes. Par le sang, je suis sauvé et préparé pour le salut, pour le départ. Là, l'amour de Dieu est clair. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Louez et remerciez le Seigneur. Que la paix soit avec vous, qu'elle soit avec nous tous. Alors que le frère Rousse lisait cette parole, il est celui qui nous a rendus capables. Il nous a aussi rendus capables. J'ai dû me poser la question, est-ce qu'il a pu le faire avec moi? C'est une chose d'écouter la parole et c'est une autre de s'humilier sous cette parole, de se soumettre, de s'abaisser sous cette parole et de dire, Seigneur, fais-moi grâce, sonde-moi, examine-moi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est seulement comme ça vrai dans la Bible? Ou bien est-ce que c'est aussi vrai dans notre vie? Et dans mon cœur, il y a un désir et un cri profond lié à cela envers Dieu. Est-ce que cela est seulement écrit? Est-ce que c'est devenu une réalité dans ma vie? Il nous a aussi rendus capables. Si nous nous posons à nous tous cette question, Dieu pourra continuer à marcher avec nous. Dans chaque prédication, il ne s'agit pas seulement que nous puissions l'écouter, mais que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire, comprendre qu'il veut nous aider. Mais nous devons reconnaître que nous avons besoin de son aide et que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit, encore moins de le servir ou bien alors de le suivre dans l'obéissance. Ces jours doivent rester pour nous inoubliables, pas seulement comme réunion, mais parce que nous sommes rapprochés de Dieu. Nous avons été rapprochés de Dieu et que nous l'avons expérimenté personnellement. Parce que sa parole et son plan est devenu plus clair pour nous, sont devenus plus clairs pour nous. Et je dois dire, pour moi, ces réunions étaient une riche bénédiction. Et quand je pense à cela, quel effort frère Branham se faisait pour annoncer le dessein et exposer le dessein du salut de Dieu, le dessein divin. Et en cela, nous remarquons cette communion profonde avec Dieu. Il parlait de ce sujet, le Dieu dévoilé. Et je vous pose la question, qui dans toute la prédication a été dévoilé? Dieu en Christ. Et qu'est-ce qui est devenu visible? Le trône de la grâce. La révélation de Dieu en Christ comme notre sauveur, rédempteur. Pas une théorie, pas un haut enseignement qu'on devrait aller chercher, mais il s'agit de Dieu révélé en forme humaine. Si dans la foi nous avons saisi cela, et encore plus, si nous avons été saisis par ça, car c'est ainsi que Paul le dit dans Philippiens, le chapitre 3. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 12. Nous devons être saisis, avoir été saisis par lui. Notre enseignement sur lui et sur tout ce qui concerne son dessein ne suffit pas. Si ce n'est que nous avons une relation intime avec notre Seigneur. Et tous doivent l'admettre, même ceux qui, dans ces jours, avance et apporte des enseignements les plus impossibles, incroyables, en se référant à Frère Branham. Si tous ceux d'entre nous qui croyons au message de Dieu avons la même relation intime avec Dieu que Frère Branham avait, nous comprendrons tout ce que Dieu a dit à travers lui, de la manière dont Dieu veut que ce soit compris. Et ce qui nous manque, en fait, c'est cette communion et cette connexion, relation intime avec Dieu et cet amour intime les uns pour les autres. Cet amour sincère, vrai, les uns pour les autres. Je l'ai dit ici il y a plusieurs années et je l'ai traduit. Alors que Frère Branham avait été, on lui avait demandé à Frère Branham, mais où est cette puissance et par laquelle tout cela arrive? Il a dit quoi? Puissance? Non, ces choses ont lieu par l'amour de Dieu. Nous voulons toujours avoir de la puissance tous, n'est-ce pas? Mais la puissance de Dieu est révélée dans l'amour de Dieu. Pensez à cet exemple-là. Là, il y a un taureau qui vient à Frère Branham dans le champ. Et cet homme dit qu'il a regardé le taureau et qu'il a aimé. Oui. Je vous pose la question ce matin. Dans quel état sommes-nous? Nous aurions perdu nos chaussures et nous serions peut-être nous-mêmes hors contexte. Et il donne nous-mêmes la réponse. Il pose la question et il répond. Qu'est-ce que c'était? C'était l'amour. L'amour. L'amour pour ceux qui sont perdus. L'amour pour ceux qui sont malades. Un amour profond, divin, une compassion. Compatir. Frère Branham n'a pas seulement apporté un enseignement. Il nous a apporté Dieu. Il nous a montré le chemin. Comment nous pouvons revenir au Seigneur pour pouvoir, et comment nous devons marcher avec Dieu, le Seigneur, dans l'obéissance et la foi. Ce n'était pas la théorie ou bien un enseignement. Cette parole d'Hébreu du chapitre 10, et je l'ai beaucoup dans mon cœur, je l'ai énormément sur mon cœur. Hébreu chapitre 10, encore en relation avec la prédication du frère Branham. Hébreu chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais. En effet, la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. En allemand, amener ceux qui prennent part. Amener à la perfection ceux qui prennent part dans le sacrifice, donc aux assistants. Restons un peu ici un moment. Encore autrefois, alors que Paul et les apôtres écrivaient leurs épîtres, dans le temple, ils sacrifiaient. On n'avait pas compris, ils n'avaient pas compris pourquoi est-ce que le rideau s'était déchiré. Ils n'ont pas reconnu le Messie en tant que celui qu'il était, en tant que ce qu'il était. Ils n'ont pas reconnu le jour de la visitation divine. Ils ont manqué de le reconnaître et ils sont passés à côté de ce jour et ils ont continué à sacrifier apporter le sacrifice. Quoique le sacrifice de Dieu avait été apporté sur la croix à Golgotha et était accompli. Ils n'ont pas reconnu Paul. Si vous lisez celui qui a écrit ici l'Épître aux Hébreux, écrit en effet la loi et les sacrifices, tout ça était seulement l'ombre des biens à venir. Et seulement l'ombre des biens à venir. On parlait des biens à venir, mais n'étaient pas les biens à venir eux-mêmes. Et ça, on peut référer cela à tout. Chaque prophète, tout ce qui avait été apporté comme sacrifice, holocauste, offrande de farine, offrande des prémices, sacrifice d'action de grâce, sacrifice d'expiation, sacrifice de culpabilité, tout ce qui existait. Tous ces sacrifices-là parlaient de ce sacrifice parfait qui viendrait. Mais c'était pas, mais ces sacrifices, aucun d'eux n'était capable d'amener les assistants à la perfection, d'amener ceux qui les apportaient à la perfection. C'est ce qui est écrit au but. C'est écrit ici noir sur blanc dans Hébreux 10, verset 1. Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, il était impossible d'amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, qui prennent part à ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. S'ils avaient été par ce sacrifice une fois pour toutes purifiés. Ça, c'est un verset qui doit aujourd'hui nous pénétrer jusqu'à la moelle et aux pilières. Et ici, il est montré que si les sacrifices qu'avaient été apportés pouvaient, dans sa conscience, faire entrer dans le repos et résoudre ses problèmes et expier ses péchés et pardonner ses péchés. Si ces sacrifices-là avaient pu faire tout ça, alors celui qui rendait ce culte, il n'aurait plus eu aucune conscience de son péché s'il avait été purifié une fois pour toutes. Alors la paix qui dépasse toute intelligence l'aurait rempli à cause du sacrifice qu'il a apporté. Il serait reparti. Nous pouvons aujourd'hui, avec reconnaissance, constater ce qui n'était pas possible pendant 4000 ans, et ce qui ne s'était pas passé, c'est passé par l'offrande du corps, par le sacrifice qui a été apporté à Golgotha. Si nous avons reconnu cela dans nos cultes, notre conscience ne sera pas affligée, mais nous regarderions à Golgotha. Et dans la foi, nous accepterions que cet agneau de Dieu a réglé le problème de nos péchés et de nos fautes. Il a réglé le problème de nos fautes, de nos péchés. Ce n'est pas non plus comme dans l'Ancien Testament que nous venons à la réunion pour être rappelés par la prédication de nos péchés, pour de nouveau encore recevoir une conscience, une mauvaise conscience. Non, nous venons à la réunion justement pour nous rappeler que nos fautes ont été expiées et que nos péchés sont pardonnés et que notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix et que par tes meurtrissures, nous avons reçu non seulement la guérison, mais le salut de notre âme. Si un culte est là seulement pour que nous soyons rappelés de nos péchés, nous aurons pu rester dans l'Ancien Testament. Alors, ça veut dire que ce qui s'est vraiment passé à Golgotha, là où il a accompli la purification de nos péchés, nous ne l'avons pas encore compris par la révélation divine. Et je pense parfois que notre foi est une foi dans notre tête et pas une révélation divine dans notre cœur, celui qui est lié à la révélation de Dieu en Christ. Et que ainsi, nous n'avons pas encore reçu la réponse de Dieu. Nous nous donnons toujours une consolation d'un jour à un autre. Nous nous consolons comme ça, et puis de nouveau, on recommence au début. Comme si par l'offrande unique du sacrifice de Golgotha, une rédemption valable éternellement n'aurait pas eu lieu. Une réconciliation. Si, par l'Esprit de Dieu, cela pouvait nous être révélé qu'il n'y a même plus de sacrifice nécessaire pour le péché, car dans notre Seigneur, ce qui devait être fait a été assez fait, et plus que ça, la pleine réconciliation et le plein pardon. Tout le salut, le plein salut, comme un cantique le chante plein salut. C'est le, notre Bible nous enseigne un salut total. Et Dieu tient ce qu'il promet. Pendant tout le temps de l'Ancien Testament, ceux qui prenaient part au culte, alors que le sacrifice était apporté, ils se rappelaient de leur péché. Et toujours de nouveau, et toujours de nouveau, ils étaient rappelés de leur péché. Et c'est comme ça qu'ils repartaient du culte, avec la conscience de leur péché. Ce dont nous avons besoin, ce sont des réunions, des cultes, dans lesquels il nous est devenu clair, devant la face de Dieu, une fois pour toutes, par une foi qui est venue de la prédication de la parole et nous, qui nous laisse savoir qu'il a porté mes fautes. Il a pris sur lui ma condamnation et que par ses meurtrissures, je suis sauvé et guéri. Il faut que cela nous soit révélé par Dieu dans une réunion, par la prédication véritable de la parole de Dieu. Et là, un homme peut venir dans une réunion dont les péchés sont comme le croix-mazi. Il peut revenir, devenir blanc comme la neige. Alors l'évangile est une bonne nouvelle, est une puissance de Dieu qui produit son effet en ceux qui, dans la foi, honorent Dieu et croient à ce qu'il a préparé et le revendique pour eux et le reçoivent aussi. Il reviendra, il repart blanc comme la neige. Ensuite, Hébreux 10, au verset 3, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Et pas non plus en ceux qui les apportaient. Par ceux qui les apportaient, c'était seulement l'ombre des biens à venir, mais pas la réalité divine. Pas l'exact représentant tel que Dieu les avait annoncés par les prophètes. Mais les prophètes n'étaient pas Dieu, mais ils ont fait que recevoir la parole de Dieu. C'est ainsi que plus tard, en Christ, Dieu lui-même est devenu homme. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Les ombres des biens à venir sont passées à la réalité, à l'exacte représentation des choses. Chaque sacrifice qui avait été apporté parlait du sacrifice unique qui viendrait et qui, une fois pour toutes, apporterait à la perfection tous ceux qui croiraient. Et ça, j'aimerais dans le même chapitre vous le lire. Dans Hébreux, le chapitre 10, au verset 14. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Et ce verset, nous voulons, dans le même chapitre, le placer en face du premier verset. Ici, il est écrit, au premier verset d'Hébreux 10, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, il ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Il ne pouvait pas être amené à la perfection par ce sacrifice, qui était seulement l'ombre des biens à venir. Mais ici, au verset 14, il est écrit, car c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui se laissent sanctifier par lui. En allemand, ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amené à la perfection. En allemand, amené au but. Il n'a pas placé le but loin de nous. La perfection loin de nous. Nous qui étions perdus, nous avons été ramenés. Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Nous qui étions enfants d'hommes, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est devenu réalité. Nous qui étions loin, nous avons été rapprochés. Ils sont maintenant plus des étrangers, mais des gens de la maison de Dieu. Et ce que les sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire, parce qu'ils n'étaient qu'un ombre, une ombre des biens à venir, et que les pécheurs devaient toujours être rendus conscients de leurs péchés. Mais cela, par le sacrifice, par l'offrande unique de Jésus-Christ, a eu lieu. Nous avons été amenés à la perfection une fois pour toutes. Nous voulons nous laisser purifier et sanctifier et laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et expérimenter personnellement ce que Dieu a fait pour nous. Il a accompli la purification de nos péchés. Nous ne nous égarons plus. Nous ne sommes pas seulement assis ici pour de nouveau être affligés dans notre conscience. Nous sommes ici pour sortir de cette affligation et rencontrer Dieu. Et dans la foi, accepter le sacrifice pour nous. Tel que cela est témoigné dans la Bible. Frère Branham parle. On lui a demandé ce que c'est qu'un démon et il parle de ce que c'est qu'un démon. Et peut-être que je l'ai amené l'après-midi et il en parle. Il dit un démon afflige. Il afflige. Il tourmente. Nous ne devons pas être tourmentés. Continuer à être tourmentés et toujours de nouveau tourmentés. Qui est-ce que le Seigneur a secouru? Tous ceux qui étaient, guérissaient et délivraient, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, tourmentés par lui, qui étaient fatigués et chargés. Il les a délivrés. Il les a secourus. Tous ceux qui étaient affligés. Tous ceux qui avaient une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Tous pouvaient repartir comme de nouvelles personnes à la maison. Tous. Jésus-Christ est encore aujourd'hui le même tel qu'il était autrefois et tel qu'il le sera encore dans toute éternité. Nous devons pendant ces jours-là, faire notre rencontre personnelle avec Dieu. Les ombres des biens à venir sont devenues l'exacte représentation des choses qui ont été une réalité. Les choses ont pris forme. Ta rédemption et ma rédemption est une réalité. Le pardon de tes péchés et de mes fautes et de tes fautes et de tes péchés et de mes péchés et de mes fautes sont une réalité divine. Ce n'est pas une ombre, c'est une réalité. C'est devenu une réalité. Celui qui ne peut pas croire mourra dans ses péchés. Mais cela n'est plus la responsabilité de Dieu. Dieu n'en est plus responsable. Mais nous mourons parce que nous n'avons pas cru. Vous pouvez le lire dans l'évangile de Jean. Notre Seigneur le dit très clairement ici. Celui qui ne croit pas, il mourra dans ses péchés. Celui qui ne croit pas que je le suis. Jean chapitre 8, versets 23 et 24. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je le suis, en allemand, ce que je suis, que je le suis, en allemand, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que je le suis, moi qui a payé le prix, qui a apporté le sacrifice, qui a accordé la rédemption, qui a donné le salut, si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Et alors, ça accomplit ce que frère Branham a apporté comme un exemple adéquat. Cet homme qui avait été jugé à mort, de la peine de mort, et l'un de ses amis était allé autrefois à ce président qui craignait Dieu, Abraham Lincoln, et il a pris un bout de papier quelconque et il a écrit là-dessus, moi, je pardonne cet homme, Abraham Lincoln. Et cet ami qui avait réussi à avoir cette déclaration du président est allé en prison chez lui. Il lui a dit, écoute, ici j'ai quelque chose que j'ai reçu du président, de la main du président. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de mourir. Et l'homme a dit, écoute, pourquoi est-ce que tu te moques de moi maintenant où je suis si proche de la mort? Mais si le président avait écrit ça, si ça venait du président, la lettre, il y aurait le sceau, il y aurait l'emblème de la présidence, de la Maison Blanche, etc. C'était qu'un bout de papier quelconque, avec une écriture, même pas. Mais c'était l'écriture du président. Et Frère Branham disait, donc il ne s'agit pas de quelle sorte de format de papier et tout ce qui est écrit, combien de pages, mais il s'agit de ce qui est écrit, le contenu, et il s'agit de savoir qui l'a écrit. Et cet homme que le président avait pardonné, et c'est comme ça en Amérique, là le gouverneur de l'un des 51 États peut agir indépendamment, et le président peut passer outre la cour de justice. Mais cela n'a pas été accepté. Ça n'a pas été accepté. Et cet homme mourut le prochain jour. Et il y a eu donc un procès verbal. Comment est-ce que cela a pu être possible? Le président avait pardonné cet homme. Et l'homme a été pendu. Et alors, le jugement, dans la justice a été, la décision a été faite, a été donnée à la justice. Un pardon n'est pas valable s'il est reçu et accepté en tant que pardon par la personne concernée. C'est de ça qu'il s'agit. L'annonce de l'évangile. C'est ça qu'il s'agit. Dieu nous a pardonné en Christ. Mais il faut que ce pardon soit accepté en tant que pardon, en tant qu'un don de Dieu. Il faut l'accepter. Il faut le croire qu'il nous a été accordé. Et voilà pour nous dans Hébreux 10 au verset 7, il est écrit, alors j'ai dit, Hébreux 10 au verset 7, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, quoique ces sacrifices sont offerts selon la loi, en allemand. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde comme étant valable. Pour établir la seconde comme valable en allemand. Comme valable. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Qui peut saisir cela? Qui peut comprendre cela? Croire! Nous le pouvons tous! Cela rend Dieu et son amour grand, qu'il nous a rachetés et que par sa grâce, il nous a laissé apporter ces choses, il nous a donné ces choses. On n'a pas besoin de l'expliquer à quelqu'un, mais on peut le croire. On devrait le croire, on doit l'accepter. Celui qui ne peut pas le croire mourra dans ses péchés. Et tous ceux qui, au jour du jugement de Dieu, seront jugés, n'ont pas besoin de se plaindre. Personne sera condamné parce qu'il a péché. Non, tous seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru que leurs péchés étaient pardonnés et que leurs fautes furent expiées. Nous sommes nés déjà dans le péché. C'est ainsi que c'est écrit dans le psaume. Mais nous sommes nés de nouveau. Maintenant, Et par cela, le premier chapitre a été fermé et clos. Et un nouveau chapitre a été ouvert. Pas tes intentions, mes intentions, mais nous avons reconnu celui duquel il est écrit et il est encore écrit. Voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, pour le péché. Tu m'as formé un corps. Et ce corps-là formait le rideau, le voile. Et ce rideau, ce corps, a été sacrifié à Golgotha. Et ce sang a coulé pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu et qu'au temps convenable, nous recevions la grâce et que nous soyons secourus et obtenus en miséricorde dans nos besoins. Que cela plaise au Seigneur de susciter la foi dans notre cœur, pas seulement une réflexion dans notre tête et accepter ces choses dans notre tête, mais une révélation de Dieu par le Saint-Esprit dans notre cœur. Comme Frère Branham pouvait dire, la foi est une révélation. C'est merveilleux. Beaucoup, aujourd'hui, courent ici et là et prennent la même parole dans leur bouche et disent, oui, la foi est une révélation, la foi est une révélation. Et quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette révélation? Alors, ils disent, c'est un mystère. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce que c'est que ce mystère? Alors, ils disent, oui, mais c'est la révélation de la foi. Et comme ça, ils font que tourner autour d'eux-mêmes. Non, la foi qui vient de Dieu nous révèle le mystère divin. C'est la vraie foi. C'est ça la vraie foi. Pas un jeu de hasard et pas un courir ici et courir là, mais une révélation de Jésus-Christ, une révélation de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. La révélation de sa parole, la révélation de sa volonté, la révélation dans le culte, dans un culte que nous ne devons pas tenir des réunions pour affliger et condamner les gens encore et dans leur conscience et les livrer à l'afflisiation, mais les faire sortir de l'afflisiation et leur montrer qu'à Golgotha, tout est accompli pour eux. Acceptez cela dans la foi. Qu'est-ce que Dieu doit encore faire pour que nous soyons plus conscients de nos péchés et que vraiment nous recevions une révélation? Car chaque vraie révélation sera toujours liée à la révélation de Jésus-Christ. Une révélation qui est détachée de Dieu et de sa parole. Nous pouvons tous nous en priver. Nous croyons Dieu. Et nous croyons que Dieu s'est révélé, mais que cette révélation de Dieu n'était pas une philosophie, et n'était pas un enseignement et une connaissance, c'était une réalité divine en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ainsi avec chaque révélation de Dieu que nous recevons de la parole de Dieu, pas de tourner autour de soi, même, et d'aller ici et là, mais de venir directement à la chose elle-même. La rédemption n'aura pas lieu maintenant. La rédemption a eu lieu avec tout ce qu'elle contient. Nous faisons qu'attendre la transformation de notre corps. Si aujourd'hui, du premier jusqu'au dernier, nous pouvions être délivrés de la conscience de nos péchés, j'aurais plus besoin de demander à quelqu'un de remercier le Seigneur, de louer le Seigneur. Subitement, quelque chose va jaillir comme une source en nous. Golgotha, par nous, par le Saint-Esprit, nous serait révélé. Il n'y a plus de sacrifices qui sont nécessaires pour le péché, car un sacrifice valable pour toujours et pour tous, un sacrifice parfait a été apporté pour tous, qui ôte le péché et par l'offrande de service. Nous avons tous été, une fois pour toutes, sauvés, rachetés, purifiés, sanctifiés et amenés déjà au but, perfectionnés déjà. Vous pouvez le lire dans l'Ancien Testament. Amenés à la perfection, à la perfection. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu qu'aucun de ces sacrifices pouvait amener à la perfection tous ceux qui assistaient au culte. Car il a dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Donc, ils ne furent pas agréables à Dieu. Et donc, non plus ceux qui assistaient au culte ne pouvaient pas être agréés non plus. Mais de notre Seigneur et Rédempteur, de l'agneau de Dieu, il est écrit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. » Et c'était celui-ci justement qui a dit ici, dans le rouleau du livre, « Il est question de moi. » Alléluia! Il était question de lui. Est-ce qu'il n'était pas aussi question de toi et de moi? Que tes péchés et mes péchés, que ta rédemption et ma rédemption allaient avoir lieu par lui? Est-ce qu'il peut avoir sans sauveur des sauvés, sans rédempteur des rachetés? L'époux a besoin d'une épouse. Et c'est à Golgotha qu'elle est née, qu'elle a été prise, qu'elle est sortie. De son côté, elle a été rachetée, c'est à Golgotha. Je suis venu au Dieu pour faire ta volonté. La volonté de Dieu était notre salut, notre pardon. La volonté de Dieu a eu lieu à Golgotha, sur la croix. Pendant tous les sacrifices de l'Ancien Testament, Dieu a fait que donner son oui. Mais le Amen, il a laissé un peu encore attendre. Mais ensuite, le jour vint, où à tous ces oui, aussi le Amen divin a été prononcé, où à toutes ces promesses, l'accomplissement divin est venu et Dieu a donné son Amen. Ainsi soit-il, accomplissement. C'est ainsi qu'il est écrit, dans Apocalypse 3, verset 14. Ainsi parle celui qui est le Amen. Il n'était pas seulement la promesse, il était le Amen, il était la réalité. 2 Corinthiens 1, verset 20 et 21. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont Amen. En Jésus-Christ, par nous. Acceptons cela aujourd'hui. Dans la foi, ce que le Seigneur nous laisse dire ici. Car c'est une œuvre accomplie de la rédemption. Je lis encore une fois le verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi, quoique ces sacrifices soient offerts selon la loi, en allemand, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose, en allemand, pour établir ce qui est valable comme seconde chose. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La première chose a vu sa fin. Les ombres des choses à venir ont abouti dans la réalité, dans l'exacte représentation des choses. Les promesses ont pris forme et c'est ainsi que nous avons une œuvre accomplie de la rédemption. C'est ainsi que nous avons l'accomplissement du dessein du salut de notre Dieu. Malheur aux hommes qui veulent être sauvés de leur propre manière, ou bien de la manière que leur offre leur religion. Le Dieu seul sauveur en Jésus-Christ, lui-même, notre Seigneur, en tant que rédempteur, s'est révélé. Et il a dit, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. La volonté de Dieu était de nous sauver, que tous les hommes soient sauvés. Mais ce ne sont pas tous qui acceptent ce salut. Bénis sont ceux à qui Dieu peut le révéler et le mettre dans leur cœur, leur révéler ce qui s'est vraiment passé à Golgotha. Laissez-moi pour encore une fois dire cela. Tous les enseignements ne nous servent à rien sur les mystères profonds de Dieu. Au contraire, les difficultés iront encore plus grandissant, car il sera plus demandé à celui qui a plus reçu. Il faut maintenant que notre vie soit en accord avec la parole de Dieu et que nous puissions faire toutes ces expériences-là qui nous sont offertes ici, proposées ici en tant qu'une expérience. Nous devons les avoir en tant qu'expérience faite personnellement avec Dieu et que la rédemption n'est pas seulement eu lieu à Golgotha, mais l'effet de cette œuvre accomplie de la rédemption ait lieu, soit manifesté dans ta vie et dans ma vie, et que de tout notre cœur nous pouvions chanter avec ce cantique. Sauvé, sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Je ne veux pas manquer de demander comment est-ce que nous nous sentons tous quand nous sommes dans une réunion. Toi et moi, est-ce que nous nous rappelons tous de nos fautes sous le coup de la parole? Est-ce que c'est dans cet objectif que la prédication est apportée? Ou bien est-ce que nous nous rappelons qu'il y en a un qui a porté nos fautes et qui les a expiées et pardonnées? Si la première chose est vraie, alors pour nous, si nous, c'est la première chose qui est le cas pour nous, si nous sommes toujours conscients de nos fautes, alors nous pourrions rester à l'Ancien Testament. Si nous restons là où ils sont restés, ceux en qui Dieu ne trouvait pas son bon plaisir, parce que c'était seulement le sang des taureaux qui avait coulé, qu'est-ce que Dieu alors doit faire avec nous qui sommes encore conscients de nos péchés alors que le sang de l'agneau a coulé? Non, nous ne pouvons plus l'être, parce que par l'Esprit de Dieu, sous l'écoute de la parole de Dieu, nous avons été déjà convaincus de nos péchés. Et que cela soit clair pour chacun, que la conviction doit nous conduire, de l'Esprit doit nous conduire à ce que nous fixons nos regards vers Golgotha et que dans la foi, nous acceptons notre pardon et notre réconciliation avec Dieu. Et personne a besoin de quitter une réunion avec encore la conscience du péché, mais on peut croire de tout notre cœur à l'Évangile. Mes péchés sont pardonnés. Je suis libre, affranchi. Christ m'a accordé sa vie. Je suis libre. Je suis libre. Dans quel état es-tu aujourd'hui? Dans quel état suis-je aujourd'hui? Dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Qu'est-ce que sera le résultat de notre vie de croyant après cette réunion? Est-ce que nous voulons nous suffire, nous satisfaire seulement d'avoir été rappelés de nos péchés, ou bien encore avoir la conscience de nos péchés, ou bien est-ce que nous voulons une fois pour toutes être entrés par le chemin inauguré au travers du voile dans le lieu très saint et dire, Seigneur, tu as répondu une fois pour toutes et tu as réglé le problème de nos péchés et tu as couvert et tu as ôté et tu as ôté, effacé, tu as réglé le problème du péché. Tu te rappelles même plus que nous avons péché. Tu accordes ta grâce. Alors, ça voudra dire que la réunion a servi à quelque chose. L'effet divin a été produit en tous ceux qui ont écouté la parole. Qu'est-ce que nous aurons comme réaction, chacun individuellement, de cette réunion? Avec quoi est-ce que nous repartirons? Que personne reste là où tous sont restés parce qu'il devait rester dans cet état, dans cet testament. Les sacrifices des taureaux et leur sang versé ne pouvaient pas le conduire plus loin que ça, jusqu'à ce que l'ombre des biens à venir passe à l'exacte représentation, prenne forme et que l'agneau de Dieu vienne et ôte le péché du monde. C'est pour cette raison que notre Seigneur a dit dans Matthieu 24 qu'en son nom, il faut que le pardon des péchés soit prêché dans Luc 24 soit prêché à toute la création. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. De tout notre cœur, il y a eu un grand jour de réconciliation. Le bon plaisir de Dieu se reposait sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et sur tous ceux qu'il a rachetés. Son bon plaisir se repose aussi sur eux, jusqu'aujourd'hui encore. Sur nous, ce bon plaisir ne serait jamais venu. Mais puisque Dieu, en Christ, nous a fait entrer en Christ, il nous voit aujourd'hui par Golgotha. Il voit nos fautes ôtées, pardonnées et effacées. Acceptez cela aujourd'hui. Ressentez-vous que l'amour de Dieu vous saisit. Si quelqu'un utilise le poing, alors rien comme résultat apparaîtra. Mais quand on prêche la parole de Dieu avec amour, l'amour de Dieu peut faire fondre le cœur le plus dur. Parce que l'amour a de la chaleur en soi, a du feu en soi. Ça fond même la pierre que nous ayons saisi ça dans la foi aujourd'hui. Nous restons pas là où tous ont dû rester dans l'Ancien Testament, non. Nous vivons dans la Nouvelle Alliance. Un nouveau testament a été fait. Et notre Seigneur a dit dans Matthieu 26, verset 26, ceci est la Nouvelle Alliance dans mon sang. En mon sang, il a supprimé la première alliance et établi comme étant valable la seconde. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit, ou bien alors plutôt la nouvelle alliance. C'est pour cette raison que c'est écrit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 16, et verset 6, il est parlé de l'évangile valable éternellement, parce que c'est une rédemption valable éternellement qui est prêchée par l'évangile valable éternellement, adressée, annoncée à tous ceux qui sont prêts dans la foi à accepter ce que Dieu en Christ nous a donné. Et que Dieu soit avec nous et accorde à chacun dans la réalité, avec nous et à tous et à tous les autres, avec nous tous les autres, tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu et qui voient l'agneau, le sacrifice parfait et l'acceptent pour eux et d'être sauvés et affranchis et rachetés par ce sacrifice et remercier Dieu, louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Louer et exalter soit son nom. Avez-vous aujourd'hui compris cela? Vraiment compris cela? C'est accompli. C'est accompli. Ça a eu lieu. C'est arrivé. Ça t'appartient. Accepte-le et remercie Dieu pour cela. Amen. Levons-nous pour la prière. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Viens. Nous courbons nos têtes de la poussière dont nous avons été pris. Mais nous regardons, nous fixons avec nos yeux de foi vers le ciel. Nous regardons vers le ciel. Et nous regardons à celui qui mourut pour nous en tant qu'agneau de Dieu et qui maintenant est un fidèle médiateur et intercesseur qui prie pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, vous n'êtes pas venus de repartir tel que vous êtes venus. Dieu veut en vous confirmer sa parole et il veut que sa parole, son sang et son esprit produisent leur effet en vous, dans votre vie, pendant que nous sommes dans sa présence et que nous sommes rappelés de plusieurs choses qui ne sont pas en ordre devant Dieu, qui ne pourront pas subsister devant Dieu. Ne restez pas arrêtés à cela. Dites-le au Seigneur, dites Seigneur, repentez-vous, dites Seigneur, pardonne-moi, tu me vois, tu me connais, tu vois mon cœur, tu connais mon cœur. Nous voulons venir comme ça devant la face de Dieu, être sincères et fixer nos regards vers Golgotha et pas seulement chanter « Glorieux Golgotha, mes fautes sont pardonnées et le péché est ôté, mon péché est ôté. » Mais croire que cela a vraiment eu lieu, encore plus que ça, croire que la vieille vie, il a été mis fin à notre vieille vie et qu'une nouvelle vie, la vie de Dieu lui-même, revient en ceux qui ont été rachetés par le sacrifice de Golgotha. Cela aussi a été dit en insistant et frère Branham l'a souligné. Il disait la vie des animaux dont le sang était offert ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Mais quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, fut apporté en tant que sacrifice, comme sacrifice, sa vie et son esprit, sa nature sont revenus sur tous ceux pour qui, comme sacrifice, il s'est apporté, il s'est offert. Ce n'est pas une théorie. C'est une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu. Et ça, nous voulons aujourd'hui l'avoir. Ce soir, que tous, que une fin soit faite avec toute chose et qu'un nouveau commencement ait lieu dans notre vie par la grâce de Dieu. Pas par tes intentions, pas par tes efforts, pas mes efforts, mais par la foi biblique en l'œuvre accomplie de la rédemption. Ah, sur la croix. À Golgotha. Aujourd'hui, ici, cela peut avoir lieu ici aujourd'hui. Nous voulons ensemble prier. S'il y en a qui veulent élever leur voix brièvement, levons tous nos voix ensemble au nom du Seigneur, invoquer le nom du Seigneur et venir à lui. Alléluia, alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Mes bien-aimés, nous voulons aujourd'hui, de cette réunion, prendre avec nous ces choses et garder cela dans nos cœurs et repasser cela dans nos cœurs, que nous vivons dans la Nouvelle Alliance et qu'il y en a un qui est venu et qui a fait la volonté de Dieu, qui fut obéissant jusqu'à la mort à la croix. Pour là-bas, porter et sauver tous ceux qui et délivrer tous ceux qui étaient dans la désobéissance, dans leur propre chemin. C'est une œuvre accomplie. Aujourd'hui, je comprends ce que ces paroles signifient. Rassemble-moi, mon peuple, avec ceux avec qui j'ai fait une alliance au sacrifice. Seigneur, une nouvelle alliance par le sacrifice de Golgotha. Acceptons-le aujourd'hui et comprenons cela une fois pour toutes, qu'un culte n'a pas le droit de s'achever sans que nous soyons affranchis, délivrés, sans que nous ayons été délivrés de notre conscience du péché. Et pour pouvoir ainsi remercier, louer celui qui a porté nos fautes et nos péchés. Oh, que Dieu puisse nous accorder de telles réunions, comme au commencement, que toutes ces choses deviennent vivantes pour nous, réelles pour nous, et que l'Esprit de Dieu puisse nous saisir, nous convaincre et nous faire entrer dans la liberté des enfants de Dieu. À notre Dieu a des pensées de paix et de salut. Et il a parlé avec nous aujourd'hui, avec nous tous, de manière claire et ouverte, à tel point que personne n'a besoin d'enseigner l'autre concernant ces choses. Nous avons été enseignés par Dieu lui-même. De nous-mêmes, nous sommes incapables, complètement incapables, mais sa parole est suffisante. Dans sa parole, tout nous a été dit. Et nous l'acceptons dans la foi. Bien-aimés frères et sœurs, arrête le combat intérieur. Tu n'entreras pas dans le repos jusqu'à ce que tu sois rentré dans le repos de Dieu, car il y a un repos présent pour le peuple de Dieu. Et nous pouvons entrer dans ce repos, pas seulement le jour du sabbat, bien le dimanche, mais entrer dans le repos de Dieu qui est là pour le peuple de Dieu, qui a été donné au peuple de Dieu. Et cela, c'est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est en lui que nous nous reposons aussi de nos propres œuvres. Et nous nous reposons dans l'œuvre accomplie de la rédemption qui, une fois pour toutes, a eu lieu pour nous, est arrivée pour nous et qui est valable éternellement. N'êtes-vous pas reconnaissant? N'êtes-vous pas heureux de ce que Dieu se donne tant d'efforts pour nous révéler tout ce qu'il a fait pour nous, pour nous le révéler, pour l'étaler devant nous comme s'il voudrait dire, est-ce que vous pouvez maintenant voir à tel point je vous ai aimé? Tout cela, je l'ai fait pour vous. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Que notre vie lui appartienne. Lui qui est allé dans la mort pour nous, qu'il puisse nous bénir et nous rendre une bénédiction pour les autres. Pour moi, cette réunion de ce matin a été d'une signification particulière et je sais que l'Esprit de Dieu, dans la simplicité, a révélé les vérités les plus puissantes qui concernent notre rédemption et notre rédempteur. Et il les a soulignées pour nous. Heureux si nous pouvons dans la foi les recevoir et les accepter et remercier Dieu pour cela. Jésus est vainqueur sur la mort. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternellement. Pour moi, Jésus a déjà préparé la victoire. Alléluia, alléluia. Je suis sauvé par son sang. Alléluia, alléluia. Quel repos céleste, quel bonheur. Alléluia, le Sauveur est mien. Alléluia. Comme c'est beau d'être sauvé. Dieu Tout-Puissant, toi qui t'es révélé en Jésus-Christ notre Seigneur, veille sur nous et sur la parole que nous avons entendue. Aide-nous à la repasser dans nos cœurs et à la croire. Et que tu puisses, dans notre vie, la faire devenir une réalité divine. Pour que personne avec une conscience chargée de péché quitte cette salle. Mais qu'ils puissent, de préférence, maintenant venir devant. Vaut mieux venir devant que de repartir, quitter cette salle, en s'intestant même à l'endroit même où l'évangile a été prêché, sans avoir donné la possibilité au Seigneur de recevoir dans la réalité ce qu'il a promis et ce qu'il nous a donné et préparé. Seigneur Dieu, aucun de nous est là qui peut s'aider et se sauver et se délivrer lui-même, ou bien se pardonner, ou bien se délivrer lui-même, personne. Mais tu es ici, toi qui as déjà fait tout ça, et nous nous mettons à ta disposition. Seigneur, sois proche, que ta présence soit perceptible, et que chacun puisse l'expérimenter personnellement, et que chacun puisse savoir si le Seigneur est présent. La pleine délivrance, la pleine rédemption, la grâce, le salut et la bénédiction et la paix à tous ceux et sur qui le bon plaisir de Dieu se repose. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu es proche de nous. Tu es ici, tu es présent et je sais que tu as parlé avec nous. Je loue la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Loué sois-tu éternellement. Amen.